Bienvenue à tous. On se plonge aujourd'hui dans un sujet d'actualité brûlant, l'action climatique mondiale.
Ah oui, et avec la COP29 qui approche à grands pas, le moment est plus que jamais crucial.
Absolument. Notre point de mire aujourd'hui, c'est cet article éclairant qui décortique les différentes approches adoptées par les pays pour lutter contre le changement climatique et bien sûr les défis qu'ils rencontrent.
Ce qui est frappant dans cet article, c'est qu'il met en lumière la tension entre ces objectifs mondiaux ambitieux pour un avenir durable et puis la réalité des systèmes économiques et politiques.
Oui.
Des systèmes qui, dans de nombreux cas, restent profondément dépendants des combustibles fossiles.
Exactement. Et la COP29, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, va devenir le théâtre où tous ces intérêts et ces priorités contradictoires vont se confronter.
C'est fascinant de voir comment chaque nation navigue dans ce paysage complexe. L'article commence par la Chine, actuellement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Ils se sont fixés un objectif incroyablement ambitieux, la neutralité carbone d'ici 2060.
Oui.
Mais la réalité, c'est qu'ils dépendent encore fortement du charbon, ce qui évidemment représente un énorme défi.
C'est vrai. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la Chine adopte une approche à plusieurs volets. D'un côté, ils investissent massivement dans les énergies renouvelables,
Oui.
devenant un leader mondial de l'énergie solaire et éolienne.
Tout à fait.
Mais en même temps, ils utilisent leur position pour plaider en faveur de ce qu'ils appellent la flexibilité dans la réalisation des objectifs climatiques, arguant que les pays développés devraient assumer une plus grande responsabilité.
Cette idée de responsabilité différenciée est un thème récurrent dans l'article. Et elle sera probablement un point de friction majeur lors de la COP29. Essentiellement, les pays en développement disent « Écoutez, vous, les pays industrialisés, vous avez créé ce problème, donc vous devez prendre l'initiative pour le résoudre en réduisant vos propres émissions et en fournissant un soutien financier et technologique pour nous aider à opérer la transition vers des voies plus durables. »
C'est logique. Et cela nous amène à l'Afrique, un continent en première ligne face au changement climatique,
oui,
subissant des impacts dévastateurs comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur.
Absolument.
Et ce, malgré une contribution minime aux émissions mondiales.
L'article dresse un tableau très sombre de ce qui se passe en Afrique. C'est un cas classique d'injustice climatique,
oui,
où ceux qui sont les moins responsables du problème subissent les conséquences les plus graves.
Et leur message est clair. Ils exigent la justice climatique. Ils ont besoin d'une aide financière accrue pour s'adapter à ces changements, faire face aux pertes et aux dommages qu'ils subissent déjà, et renforcer leur résilience pour l'avenir.
Et il ne s'agit pas seulement d'aide, il s'agit de donner aux nations africaines les moyens de prendre en main leur propre avenir énergétique,
oui,
d'investir dans les sources d'énergie renouvelables
et
de construire des économies durables.
Parlons maintenant des pays en développement qui sont confrontés à d'énormes défis. L'article se penche également sur la situation de l'Inde, troisième plus grand émetteur mondial avec une population en croissance rapide,
oui,
et un besoin urgent d'équilibrer le développement économique et la durabilité environnementale.
C'est un exercice d'équilibre, c'est sûr. L'Inde dépend encore fortement du charbon pour sa croissance industrielle, et ils soutiennent, tout comme la Chine, que les pays développés doivent fournir plus de soutien pour les aider à passer à des sources d'énergie plus propres.
Mais il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt. L'Inde fait également des progrès significatifs dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, et elle va utiliser la COP29 comme plateforme pour plaider en faveur d'une aide financière accrue pour les pays en développement.
C'est une situation complexe, mais l'article montre clairement que l'Inde est déterminée à jouer un rôle de premier plan dans la transition mondiale vers un avenir plus durable.
Passons maintenant à l'Europe, souvent considérée comme chef de file en matière de politique climatique.
Oui.
Ils se sont fixés des objectifs parmi les plus ambitieux en matière de neutralité carbone, disons 2050. Mais, comme le souligne l'article, ils sont également aux prises avec certaines divisions internes.
Absolument. Les récentes crises énergétiques, déclenchées en partie par le conflit en Ukraine, ont vraiment mis en évidence la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles, en particulier au gaz russe.
Oui.
Cela a conduit à un regain d'intérêt pour l'indépendance énergétique et à une transition plus rapide vers les énergies renouvelables.
Mais ce n'est pas sans difficulté. Certains États membres s'inquiètent des conséquences économiques d'une transition trop rapide, surtout compte tenu des incertitudes géopolitiques actuelles.
L'approche de l'UE est également assez intéressante. Il plaide pour une approche plus rigoureuse de l'action climatique mondiale, en faisant pression pour des objectifs d'émission contraignants et même en envisageant une taxe carbone sur les importations en provenance de pays dont les normes environnementales sont moins strictes.
C'est audacieux.
C'est une initiative audacieuse. Et elle ne manquera pas de susciter de nombreux débats lors de la COP29.
Il sera fascinant de voir comment l'Europe va gérer ses divisions internes tout en essayant d'exercer un leadership sur la scène mondiale.
D'accord. Tournons maintenant notre attention vers les États-Unis. Après avoir rejoint l'accord de Paris, ils essaient de rattraper leur retard en matière de politique climatique, mais ils se heurtent à des obstacles internes majeurs.
L'administration actuelle a fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions d'ici 2030. Mais elle se heurte à des résistances.
Oui.
En particulier de la part des États qui ont fortement investi dans la production de combustibles fossiles et, bien sûr, d'un Congrès divisé.
C'est compliqué. Les États-Unis sont dans cette position intéressante où ils veulent être perçus comme un leader mondial de l'action climatique. Mais ils sont également aux prises avec ces intérêts politiques et économiques profondément enracinés qui ralentissent les progrès.
L'article souligne l'accent mis par les États-Unis sur l'innovation technologique et les mécanismes de financement pour accélérer la transition vers des sources d'énergie plus propres, mais il reconnaît également la réalité.
Oui.
Les États-Unis dépendent encore fortement des combustibles fossiles. Et que surmonter ces complexités politiques sera la clé de la réalisation de leurs objectifs climatiques.
C'est un exercice d'équilibre délicat, c'est certain.
Et cela nous amène à un groupe qui rehausse le plus directement la pression de cette transition énergétique.
Oui.
Les principaux pays producteurs de pétrole et de gaz.
C'est vrai. Pour des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, cet abandon des combustibles fossiles représente une menace existentielle pour leur modèle économique. Leurs économies entières reposent sur les revenus du pétrole et du gaz.
L'article décrit comment ils tentent de s'adapter en investissant dans des technologies de capture du carbone et en explorant des projets d'énergie renouvelable pour diversifier leurs économies.
Mais ils opposent également une certaine résistance, plaidant pour une transition plus progressive.
Oui.
Et exprimant des inquiétudes quant aux conséquences économiques et sociales potentielles d'une baisse rapide de la demande mondiale de pétrole et de gaz.
Pour eux, la COP29 est un enjeu de taille. Ils doivent trouver un moyen d'équilibrer leurs intérêts économiques et la pression internationale croissante en faveur de la décarbonisation.
Et au milieu de tout cela, il y a le Maroc, que l'article met en avant comme une lueur d'espoir, en particulier sur le continent africain, en matière de transition énergétique.
Ce qui est impressionnant avec le Maroc, c'est son engagement en faveur d'actions concrètes. Ils ont lancé des projets d'envergure, comme la centrale solaire Nour à Ouarzazate. Et ils visent à produire plus de 50% de leur électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030.
C'est formidable. Ils ne se contentent pas de fixer des objectifs, ils les réalisent.
Exactement. Et ils se positionnent activement comme un modèle pour les autres pays africains. Démontrant qu'il est possible d'adopter un avenir énergétique durable tout en stimulant la croissance économique et la résilience.
Oui.
Ils ont également réussi à mobiliser des financements internationaux pour soutenir leurs efforts. Ce qui constitue une leçon importante pour les autres pays en développement.
On dirait que le Maroc fait vraiment figure de poids lourd dans la lutte contre le changement climatique.
C'est le cas. Ils vont profiter de la COP29 pour partager leurs expériences, plaider en faveur d'un soutien financier accru pour les pays en développement et inciter les autres à suivre leur exemple.
Nous avons donc parcouru beaucoup de terrain.
Oui.
Explorant un large éventail de perspectives sur cette question incroyablement complexe.
Absolument.
Il est clair que la COP29 va être un moment charnière. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Quelles sont les principales conclusions à en tirer?
Eh bien, je pense que l'un des aspects les plus frappants de cet article est qu'il met en évidence l'interdépendance de ce défi. Nous parlons d'un problème mondial qui exige des solutions mondiales. Aucun pays ne peut résoudre ce problème seul.
Exactement. Et il ne s'agit pas seulement des gouvernements et des accords internationaux. Il s'agit des individus, des communautés, des entreprises et des organisations qui jouent tout leur rôle.
Et l'article souligne vraiment l'urgence de la situation. Nous sommes à la croisée des chemins et les décisions que nous prendrons dans les années à venir auront de profondes conséquences pour les générations futures.
C'est un moment qui exige du leadership, de l'innovation et une volonté de travailler ensemble pour créer un avenir plus durable et plus équitable pour tous.
Et c'est ce qui rend la COP29 si cruciale. C'est l'occasion pour le monde entier de se réunir, de partager des idées, de forger des partenariats et de s'engager à agir concrètement.
Nous reviendrons après une courte pause pour explorer ces thèmes plus en profondeur et examiner ce que tout cela signifie pour vous, l'auditeur. Restez à l'écoute.
À tout de suite. Avant de passer à autre chose, il convient de souligner un élément clé qui ressort de l'article.
Oui.
Alors que nous avons discuté de diverses approches nationales, il est crucial de reconnaître que cette transition énergétique ne concerne pas seulement les pays. Mmh. Elle concerne des secteurs entiers de l'économie mondiale qui sont profondément liés aux combustibles fossiles.
Ah oui, c'est important. On parle d'industries comme le transport, la fabrication, la production d'électricité.
Oui.
Les poids lourds en matière d'émissions mondiales.
Précisément, ces secteurs subissent une pression immense pour se décarboner et leur succès ou leur échec déterminera en grande partie si nous pouvons atteindre ces ambitieux objectifs climatiques mondiaux.
Alors, à quoi ressemble cette transformation en pratique? Est-ce qu'on parle simplement de remplacer les voitures gourmandes en essence par des véhicules électriques?
Oui.
Et les centrales au charbon par des panneaux solaires?
Cela fait certainement partie de l'équation, mais cela va beaucoup plus loin. On parle de changements fondamentaux dans la façon dont nous produisons et consommons l'énergie. Mmh. Dans la façon dont nous concevons nos villes, dont nous gérons nos ressources, c'est une transformation systémique qui exige de l'innovation, des investissements et une volonté de remettre en question le statu quo.
C'est un défi énorme. Par où commencer pour s'attaquer à quelque chose d'aussi colossal?
L'article met en avant plusieurs domaines clés. L'un d'eux est le rôle de l'innovation technologique. Nous avons besoin de percer dans les énergies renouvelables.
Le stockage de l'énergie, la capture du carbone et les matériaux durables. Mais il ne s'agit pas seulement d'inventer de nouvelles choses. Il s'agit de rendre ces innovations abordables et accessibles à tous, en particulier dans les pays en développement.
C'est logique. À quoi bon une technologie de pointe si elle n'est accessible qu'à une poignée de riches?
Exactement. Et cela nous amène à la question cruciale du financement. Nous avons besoin d'investissements massifs pour mener à bien cette transition,
ouais.
Non seulement de la part des gouvernements, mais aussi du secteur privé.
Mais investir dans de nouvelles technologies est toujours risqué.
Oui.
Comment inciter ces investissements et s'assurer qu'ils vont là où ils sont le plus nécessaires?
C'est là que la politique joue un rôle crucial. Les gouvernements ont la responsabilité de créer un environnement favorable à ces investissements. Que ce soit par des mécanismes de tarification du carbone,
oui.
Des incitations fiscales,
ou
des réglementations qui encouragent les pratiques durables. Donc, il s'agit de créer des conditions de concurrence équitables où les solutions vertes peuvent rivaliser,
oui.
Voire surpasser, les anciens systèmes basés sur les combustibles fossiles.
Précisément. Il s'agit d'envoyer un signal clair au marché que l'avenir est vert et qu'investir dans la durabilité n'est pas seulement bon pour la planète, mais aussi pour les affaires.
Mais soyons honnêtes, ces changements vont créer des perturbations. Quid des personnes dont les moyens de subsistance dépendent de ces industries basées sur les combustibles fossiles?
Oui.
Comment assurer une transition juste qui ne laisse personne de côté?
C'est un point crucial et l'article aborde cette question directement. Une transition véritablement durable doit être une transition juste. Elle doit tenir compte des impacts sociaux et économiques sur les travailleurs et les communautés qui dépendent fortement des combustibles fossiles.
Alors, comment fait-on cela?
Oui.
Comment s'assurer que ces personnes ne sont pas laissées pour compte alors que le monde se tourne vers un avenir énergétique plus propre?
Il s'agit de fournir des possibilités de reconversion et de requalification, de soutenir le développement de nouvelles industries et d'emplois dans l'économie verte, et de fournir des filets de sécurité à ceux qui sont les plus vulnérables à ces changements économiques.
On dirait qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions, mais aussi de construire un avenir plus équitable et plus inclusif pour tous.
C'est le but ultime. Et ça ne va pas être facile. Il y aura de la résistance,
ouais.
Il y aura des défis. Et il aura des choix difficiles à faire en cours de route.
Mais on dirait qu'on a les outils, les connaissances et la technologie pour y arriver.
Oui.
Il s'agit simplement de rassembler la volonté politique et l'action collective pour le faire.
Et c'est là que des événements comme la COP29 deviennent si importants. Ils offrent une plateforme pour le dialogue mondial, pour le partage des meilleures pratiques,
oui.
Pour la création de partenariats et pour la responsabilisation mutuelle.
C'est cela. Il s'agit de créer une dynamique, d'inspirer l'action et de nous rappeler qu'il s'agit d'un défi que nous pouvons relever si nous travaillons ensemble.
Et si nous réussissons, les récompenses seront incommensurables. Une planète en meilleure santé,
oui.
Une économie plus résiliente,
mmh.
Et un avenir plus prometteur pour les générations futures. Mais l'article aborde également un aspect crucial de ce défi mondial, le concept de justice climatique. En particulier, la responsabilité des pays développés de soutenir les pays en développement dans leur transition.
Oui, c'est un thème qui revient tout au long de l'article. Pouvez-vous développer un peu plus? Pourquoi cette idée de justice climatique est-elle si cruciale dans ce débat?
La justice climatique reconnaît que les impacts du changement climatique ne sont pas répartis de manière équitable. Ceux qui ont le moins contribué au problème, souvent les pays en développement, sont souvent les plus vulnérables à ces effets. Ils sont confrontés à des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur et autres catastrophes liées au climat plus fréquentes et plus graves.
C'est une double injustice. Ils n'ont pas créé le problème, mais ils en subissent les conséquences.
Exactement. Et c'est pourquoi il y a cet appel croissant aux pays développés, qui ont historiquement été les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, à intensifier leurs efforts et à fournir un soutien financier et technologique pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique et à opérer la transition vers des voies plus durables.
Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous interconnectés, que nous avons la responsabilité commune de relever ce défi mondial.
Oui.
Et que laisser quelqu'un de côté n'est pas une option.
Précisément. Et il ne s'agit pas seulement de charité ou d'aide, il s'agit de reconnaître l'interdépendance de notre monde. Le changement climatique ne respecte pas les frontières.
C'est vrai.
Ce qui se passe dans une partie du monde aura inévitablement des répercussions sur d'autres parties.
Donc, il est dans l'intérêt de tous de soutenir une transition mondiale vers un avenir plus durable.
Exactement. Et cette transition ne consiste pas seulement à atténuer les impacts négatifs. Il s'agit aussi de reconnaître les opportunités qu'elle présente.
Oui.
En particulier pour les pays en développement.
Des opportunités, dis-moi plus.
Eh bien, pour les pays en développement, cette transition représente une chance de sauter des étapes technologiques dépassées et de construire des économies plus résilientes et durables dès le départ. C'est l'occasion de créer de nouvelles industries, de nouveaux emplois et de nouvelles voies vers la prospérité.
Donc, il ne s'agit pas seulement de rattraper son retard, mais de tracer une nouvelle voie.
Exactement. Et pour les pays développés, c'est l'occasion d'investir dans l'innovation, de créer de nouveaux marchés pour les technologies vertes et de renforcer les partenariats mondiaux. C'est une chance d'être des leaders dans cette transformation mondiale.
On dirait une situation gagnant-gagnant.
Il s'agit de créer un avenir plus durable et plus prospère pour tous.
C'est l'idée. Et il ne s'agit pas seulement des gouvernements et des grandes entreprises. Il s'agit des individus, des communautés et des organisations de la société civile qui s'unissent pour impulser le changement à la base.
C'est vrai. Il s'agit de reconnaître que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un avenir meilleur.
Absolument. Il s'agit d'avoir le courage d'imaginer un monde différent. Et la détermination de faire de cette vision une réalité.
Il s'agit d'espoir, d'innovation et d'action collective.
Et il s'agit de reconnaître que le moment d'agir est maintenant.
Bien dit. Cela a été une exploration vraiment perspicace des complexités de l'action climatique mondiale.
Oui.
Nous avons examiné les points de vue de chaque nation, les défis auxquels sont confrontés les secteurs clés, et l'impératif d'une transition juste qui ne laisse personne de côté.
Et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a tellement plus à explorer. Tant de points de vue différents à prendre en compte.
Oui, et d'innombrables possibilités de participer à cette conversation essentielle.
Cela peut parfois sembler accablant, mais c'est aussi incroyablement inspirant de voir le niveau d'innovation, l'engagement en faveur de l'action et la détermination à créer un avenir meilleur qui émerge partout dans le monde.
Absolument. Et c'est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Il y a des gens partout dans le monde qui travaillent sans relâche pour relever ce défi. Et leurs efforts font la différence.
Alors que nous nous tournons vers la COP29, il est crucial de nous rappeler qu'il ne s'agit pas simplement d'un événement lointain qui se déroule ailleurs.
Oui.
C'est une conversation mondiale qui nous concerne tous et les décisions qui seront prises auront des répercussions sur toute la planète.
C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de réfléchir à son propre rôle dans cette histoire et de se demander comment nous pouvons contribuer à la construction d'un avenir plus durable.
Bien dit. Nous reviendrons tout de suite après une courte pause pour conclure notre analyse approfondie et vous laisser quelques réflexions finales à méditer alors que nous nous dirigeons vers ce moment crucial pour l'action climatique mondiale. Alors, on a exploré les complexités de l'action climatique mondiale d'un point de vue macro en examinant les positions des nations et les défis auxquels sont confrontés les secteurs clés. Mais maintenant, recentrons notre attention et ramenons cette conversation plus près de nous. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, l'auditeur ? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, faire une différence face à un défi mondial aussi monumental ?
C'est une question que beaucoup de gens se posent. Il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur de la crise climatique et de se demander si nos actions individuelles peuvent réellement faire la différence. Mais il est important de se rappeler que l'action collective est en fin de compte la somme des choix individuels. Chaque pas que nous faisons, aussi petit soit-il, contribue au mouvement plus large en faveur du changement.
C'est vrai.
Mais par où commencer? Quelles sont les actions concrètes que les auditeurs peuvent entreprendre dans leur propre vie et qui auront un impact réel sur cette question?
Eh bien, la première étape est la prise de conscience. Il s'agit de s'informer sur la science du changement climatique, de comprendre ses impacts et de se tenir au courant des derniers développements et solutions. Plus vous en savez, plus vous vous sentirez en mesure de faire des choix éclairés et de plaider en faveur du changement.
Donc, lire des articles, écouter des podcasts comme celui-ci, participer à des conversations sur le changement climatique, ce sont tous de bons points de départ.
Absolument. Il s'agit de cultiver un sentiment de préoccupation éclairée et un désir de faire partie de la solution. Une fois que vous avez cette base, vous pouvez commencer à examiner votre propre mode de vie et à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire votre empreinte environnementale personnelle.
Par exemple,
pensez à vos habitudes de consommation. Y a-t-il des moyens de réduire le gaspillage? D'acheter moins de choses et de choisir des produits ayant un impact environnemental moindre.
Oui.
Pourriez-vous réduire votre consommation d'énergie à la maison en optant pour des appareils électroménagers plus économes en énergie ou simplement en étant plus attentif à votre consommation d'énergie?
Oui.
Y a-t-il des possibilités d'adopter des modes de transport plus durables
comme
la marche, le vélo ou les transports en commun?
C'est pratique. Ce sont des choses que beaucoup d'entre nous peuvent faire au quotidien sans avoir à changer radicalement de mode de vie.
Exactement. Il s'agit de faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs et de reconnaître que chaque petit geste compte. Et lorsque vous commencez à faire ces changements vous-même, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix pour influencer les autres.
Ah oui, il s'agit de sensibiliser, d'engager des conversations et d'encourager nos amis, notre famille et nos collègues à se joindre au mouvement pour le changement.
Précisément. Parlez du changement climatique avec les gens qui vous entourent. Partagez des informations, partagez vos préoccupations et incitez-les à agir eux aussi.
Donc, il ne s'agit pas seulement de changer nos propres habitudes, mais aussi de devenir des défenseurs du changement au sein de nos propres cercles sociaux.
Exactement. Et n'oubliez pas que votre voix s'étend au-delà de votre réseau immédiat. Vous pouvez amplifier votre impact en participant à l'action collective. Soutenez les organisations qui s'efforcent de lutter contre le changement climatique. Participez aux initiatives locales. Contactez vos élus. Et plaidez en faveur de politiques qui promeuvent la durabilité.
C'est important. Il s'agit d'utiliser nos voix pour créer un environnement plus favorable à l'action climatique à tous les niveaux. De nos communautés locales à la scène mondiale.
Et à l'approche de la COP29, il est crucial de nous rappeler que ce n'est pas seulement un rassemblement de dirigeants mondiaux. C'est un moment qui reflète les espoirs et les aspirations des populations du monde entier qui exigent un avenir meilleur.
C'est inspirant. C'est un rappel que nous faisons tous partie de cette histoire.
Oui.
Que nos voix comptent. Et que nous avons le pouvoir d'influencer le résultat.
Et une dernière réflexion pour conclure notre analyse approfondie. Oui, les défis sont immenses. Mais le potentiel de changement positif l'est tout autant. Nous avons les connaissances, la technologie et les ressources nécessaires pour créer un monde plus durable et plus juste. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la volonté, de la détermination et de l'action collective pour y parvenir.
Bien dit. Alors que nous continuons à nous attaquer aux complexités du changement climatique, n'oublions pas d'aborder ce défi avec un sentiment d'espoir.
Oui.
Un engagement en faveur de l'action. Et la conviction que nous sommes collectivement capables de créer un avenir meilleur. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans le monde de l'action climatique mondiale.